Et nous allons voir un heureux événement ce matin, le mariage de Moïse. Le problème, c'est que ça a provoqué une querelle de famille terrible. Alors, nous allons lire ce texte en Nombre chapitre 12 et réfléchir ensemble à Nombre chapitre 12, verset 1er. On va lire tout le chapitre, il n'est pas très long. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron, et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte ? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Après cela, le peuple partit de Hashteroth et il campa dans le désert de Paran. Quand on se lève pour servir le Seigneur, et je le dis à l'intention de chacun ici, mais en particulier de Garça qui vient de faire cet acte d'obéissance, de se lever, de vouloir servir et glorifier le Seigneur toute sa vie, on peut être sûr d'une chose, c'est que l'ennemi aussi se lève pour tenter de nous décourager. C'est un principe biblique. J'aimerais vous énoncer le principe tel que l'apôtre Paul le donne en 2 Timothée chapitre 3. Il dit au verset 10, « Pour toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supportée ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il dit ici clairement, c'est une promesse qu'il fait, mais c'est une promesse qui nous fait frémir. Il dit, le jour où je me suis levé, j'ai connu des difficultés, j'ai connu des souffrances, j'ai connu de l'opposition. Et c'est pour cette raison que on fait cette troisième leçon dans le cours découverte sur les souffrances, sur les difficultés. Parce qu'on a remarqué que chaque fois que quelqu'un prend le pas du Seigneur, l'ennemi se lève et se met à le poursuivre. L'une des voies de notre ennemi, c'est la critique. C'est-à-dire dès l'instant où on se lève pour le servir, on est sujet à la critique. Moïse a connu ça très tôt. Il y avait dans le peuple un ramassis de gens, selon l'expression biblique. Un ramassis de gens qui systématiquement ont murmuré ou contesté contre Moïse, qui parfois en a été très fortement affecté, très attristé. Mais ici, imaginez, ce sont sa sœur et son frère, ses aînés, c'est son propre sang qui se tourne contre lui et l'attaque. Les querelles avec des inconnus peuvent nous miner, mais il suffit de cesser de les voir et ça va mieux. Mais les querelles dans la famille, les querelles dans la famille de Christ, elles sont terribles. Le proverbe 18, verset 19 dit « Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme des verrous d'un palais. » Voyez-vous, quand les frères sont froissés, c'est tellement difficile à régler. Pourquoi ? Mais parce qu'on ne peut pas, changer de famille. On revient toujours à sa famille. La famille, c'est la famille, qu'elle soit dans la chair ou qu'elle soit en Christ. La famille, c'est la famille. Et quand il y a des souffrances, des tensions au sein d'une famille, c'est très difficile, très douloureux. Alors, ce matin, je vous propose de voir d'abord l'occasion de la querelle. Et comme j'ai peur que ça s'arrête, je vais vous montrer la suite. La réaction à la querelle, en deuxième point. Et puis en troisième point, nous verrons la solution à la querelle. Revenons en arrière. L'occasion de la querelle. L'occasion de la querelle, c'est un événement qui aurait dû réjouir tout le monde. Un mariage. Eh ben non. Il s'agit d'un remariage, très certainement, suite au décès de Séphora, qui n'est plus mentionné depuis Exode 18. Et Moïse a pris pour femme une femme éthiopienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on aurait pu lire le premier verset du chapitre 12 comme ceci. C'est la seule mention d'une éthiopienne dans les Écritures. Il est dit ici, « Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. » Car il avait pris une femme éthiopienne. Vous voyez le sens un peu ? Aïe, aïe, aïe. Une cushite, selon le mot hébreu. Cush, ou l'Éthiopie, était un royaume très, très puissant à l'époque. C'était un royaume qui était extrêmement riche et les Égyptiens avaient donc envoyé toutes sortes d'expéditions pour rechercher les trésors de l'Éthiopie pour nourrir le faste des palais égyptiens. Il y avait à l'époque de nombreux étrangers en Égypte et il est fort probable que cette femme éthiopienne ait quitté l'Égypte parmi le peuple hébreu et qu'elle se soit attachée au Dieu d'Israël. Et c'est pour ça que Moïse l'a choisi. Mais quand même, elle est noire. Elle est noire. Et c'est probablement là le reproche que Marie et Aaron font à Moïse. La fière israélite méprisait cette étrangère à la peau noire. On peut dire que Moïse était en avance sur son temps et que l'occasion de la querelle est toujours d'actualité. La plupart des couples mixtes, entendez noir et blanc ou vanille chocolat, savent de quoi je parle. Je voudrais tout de suite dire que le mariage est un défi. Le mariage, quel qu'il soit, est un défi en lui-même. Parce qu'il s'agit de fusionner deux personnes qui n'ont forcément pas reçu la même éducation, les mêmes valeurs, qui n'ont pas exactement les mêmes goûts et les mêmes désirs. Alors ajoutez à cela une différence de culture, une différence de couleur, une différence d'âge ou une différence de niveau social, et vous ajoutez encore au défi. Les couples mixtes que nous avons préparés au mariage ces dernières années et qui fusionnent leur vie ont relevé ce défi et savent que cette différence engendre des défis supplémentaires. Mais ces différences ne sont pas une impossibilité pour le mariage, dès lors qu'on surmonte chaque situation par la grâce qui nous est donnée en Christ et par la mise en pratique de l'Évangile dans le couple. Donc, ces mariages, non seulement Dieu les approuve, mais aussi il les célèbre avec le même enthousiasme pour sa gloire. Dans le cas de Moïse, Dieu avait formellement interdit le mariage avec les Cananéens, les Cananéennes. Mais aucune interdiction ne portait sur l'Éthiopienne au milieu d'Israël. Ce que Dieu voulait prévenir dans l'interdiction d'épouser des Cananéens, des Cananéennes, c'était une union avec une étrangère spirituellement. Il voulait prévenir l'influence idolâtre des peuples de Canaan. Le Nouveau Testament nous met en garde de la même manière. En 2 Corinthiens 6, 14, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Donc, la perspective demeure. Mais fermons cette parenthèse, parce que tout cela n'est que l'occasion de la querelle. C'est Marie, certainement, qui en est l'instigatrice, puisque son nom est mentionné en premier. Aaron se laisse entraîner par elle, comme quelque temps auparavant, par le peuple. En Exode 32, on lui avait demandé de faire un veau, il a fait un veau. Là, on lui a demandé de monter contre Moïse, il est monté contre Moïse. En fait, ils insinuent que Moïse s'est égaré en prenant une femme éthiopienne. Et ils mettent en doute son autorité spirituelle. Regardez ce qu'ils disent. Verset 2, c'est là où on voit que la réalité. « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Ah, nous y voilà. Ce qui se passe en fait, c'est de la jalousie de son cœur qui s'exprime envers la position d'autorité que le Seigneur accordait à Moïse, leur petit frère. Il faut se mettre à sa place. C'est elle qui avait suivi le panier dans lequel le bébé Moïse avait été mis sur le fleuve. C'est elle qui avait proposé à la fille de Pharaon, « Écoute, j'ai une nourrice qui pourrait faire l'affaire. » Et elle avait proposé la mère de Moïse. C'est donc en partie grâce à elle que Moïse vit. Et c'est lui, Moïse, qui est honoré, et pas elle. Ça leur est tout à fait insupportable. En plus, il s'est remarié avec une Éthiopienne sans nous demander notre avis. Vous voyez bien qu'il n'y a pas que ce Moïse qui soit un prophète. Dieu parle aussi par nous. D'ailleurs, en Exode 15, 20, lorsqu'ils ont passé la mer, Marie a chanté un magnifique cantique. Elle a entraîné toutes les femmes d'Israël à chanter ce cantique. Et elle est appelée Marie, la prophétesse. Ah ben, vous voyez bien que Dieu parle aussi par Marie. Et puis, Aaron, c'est le souverain sacrificateur. Il a l'Urim et le Thummim. Et par lui, Dieu se révèle au peuple. Et puis, vous vous souvenez, au tout début, quand Moïse a été envoyé par l'Éternel, il ne savait pas parler, alors il lui a dit, mais écoute, Aaron va parler pour toi. Vous voyez bien que Marie et Aaron sont des prophètes aussi. Il faut comprendre que le mariage de Moïse n'est que l'occasion de la querelle. Ce n'est pas la source. La source, elle est ailleurs. La source, elle est dans le cœur. Elle provient de la rébellion du cœur de l'homme, de la jalousie, de son incapacité à se soumettre à Dieu et donc aux autorités que Dieu a placées. Jacques chapitre 4, versets 1 et 2 dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Si vous êtes en responsabilité, vous serez à coup sûr critiqué. Vous êtes trop ceci, pas cela. Et donc vos accusateurs penseront évidemment qu'à votre place, ils auraient fait bien mieux. Et cette rébellion les pousse à trouver un prétexte à une dispute. L'occasion de la dispute. Voyons maintenant la réaction à la querelle. Qu'a fait Moïse ? Qu'a-t-il dit ? Moïse ne dit rien. Lorsqu'il s'agit de la gloire de Dieu, alors il est ardent et il répond promptement et avec force. Mais quand l'attaque porte sur sa position personnelle, il ne répond pas. Le commentaire qui est fait dans le verset 3, il y a deux commentaires terribles. Le premier commentaire, verset 3, est « L'Éternel l'entendit ». Ouf, aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est une première leçon pour nous. L'Éternel l'entendit. Ça signifie que si nous parlons mal contre quelqu'un, Dieu l'entend. Alors méfions-nous. Ça signifie aussi que si quelqu'un parle mal contre nous, Dieu l'entend. Alors rappelons-nous, Dieu l'entend. Le deuxième commentaire qui est fait dans ce verset 3, c'est « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Vous vous souvenez de qui a écrit le livre de Deutéronome, de Nombre, Exode, et tout ça, c'est Moïse. Et Moïse écrit « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Le mot « patient » est aussi traduit par « humble » ou « doux ». Alors, certains critiques disent « Comment est-ce que Moïse a-t-il pu écrire ça de lui-même ? Je suis le plus humble !» Mais je crois que Dieu l'a fait. Qu'il l'a fait ? Toute la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit-Saint. Et la Bible est différente de tous les autres livres, parce que même des plus grands serviteurs, comme celui de Moïse, il nous est rappelé le péché de Moïse. Et c'est Moïse qui écrit lui-même son propre péché. Aussi, quand il s'agit de dire la vérité sur l'état de son propre cœur, il l'écrit également. Et Moïse était un homme fort patient, fort humble. Et c'est très à propos qu'ils le disent ici. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de montrer qu'il n'avait rien fait pour provoquer cette attaque de la part de Marie et d'Aaron. En fait, lorsqu'une personne est imbue d'elle-même, on trouve assez juste de la remettre en place. Vous savez, celui qui est toujours en train de se la jouer, on a juste envie de trouver une occasion pour le... Mais celui qui est humble, vous savez, comment est-ce qu'on peut reconnaître l'humilité ? Quelqu'un a dit, je ne me souviens plus de quel roi il parlait, mais il disait, habituellement quand on se trouve devant un roi, on sait qu'il est très grand et que nous sommes tout petits. Parfois, devant certains rois plus humbles, on a l'impression de parler avec eux sur un pied d'égalité. Mais ce roi, quand on parle avec lui, on a l'impression d'être grand soi-même. Mais je pense que c'est cela, Moïse. Ce côté humble, ce côté tellement patient. Moïse il n'est pas imbu de lui-même. Il est doux. Il n'avait pas d'attitude orgueilleuse quand il a conduit le peuple d'Israël. Il n'a rien fait qui aurait pu exciter la jalousie de Marie et d'Aaron. Et c'est le chapitre précédent qui nous en donne la preuve. Dans le chapitre 11, verset 4, il est dit que le ramassis de gens dont je vous parlais tout à l'heure, qui se trouvait au milieu d'Israël, fut saisi de convoitise. Et donc ils en avaient assez de la manne et ils voulaient manger de la viande. Et quand ils sont venus se plaindre, se lamenter et gémir devant Moïse, Moïse a dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et il a dit à Dieu, mais Seigneur, moi je ne peux pas faire de la viande pour tout le monde. Ça, ce n'est pas possible. Et puis, moi, je ne peux pas porter ce peuple. Il est trop dur, il est trop... Tout le temps à jeûne, tout le temps... Je ne peux pas le porter. Alors Dieu lui a dit, écoute, je m'occupe de la viande. Toi, je vais alléger ta charge... Je vais faire venir 70 ouvriers, 70 serviteurs, sur lesquels je vais mettre de ton esprit pour qu'ils viennent te soutenir dans ta tâche. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu a convoqué 70 ouvriers du peuple, 70 hommes choisis par Moïse. Et puis Dieu est descendu et il a répandu de l'esprit de Moïse sur ces 70. Mais il y avait deux hommes, Eldad et Mérad, qui n'étaient pas là. Ils étaient restés dans le camp, mais la bénédiction s'est répandue aussi sur leur cœur et ils ont commencé à prophétiser dans le temple, dans le camp. Oh, il y a un petit garçon qui a vu ça. Il est venu voir Moïse. Moïse, il y a deux là qui sont pas là, qui sont pas venus au rendez-vous. Il y en a deux qui prophétisent. Josué, l'intime de Moïse, est venu et il dit au verset 28, « Moïse, mon serviteur, empêche-les, c'est pas possible. » Et Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Vous voyez l'attitude de Moïse. Moïse n'est pas en train de défendre son beefsteak, qui est en train de il y a moi seul. Non, il est en train de dire au contraire. Mon désir, le vœu le plus cher de mon cœur, c'est que tous soient revêtus de l'Esprit de l'Éternel et que tous puissent être serviteurs de l'Éternel et glorifier son nom. Moïse a été attaqué, mais il ne s'est pas défendu lui-même. Et ça, c'est un principe que nous devrions retenir pour savoir comment gérer les attaques, les querelles qui nous sont faites. Est-ce le nom de l'Éternel qui est en jeu ou est-ce le mien? Si c'est le nom de l'Éternel, alors levez-vous. Si c'est le vôtre, restez assis. N'est-ce pas que nous défendons souvent notre nom avec plus d'ardeur que celui de l'Éternel ? Ici, c'est Dieu qui défend la cause de Moïse. Dieu lui-même. En Romains 12, il est dit au verset 19, Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Restez assis quand il s'agit de votre cas personnel et laissez agir le Seigneur. C'est Dieu qui défend la cause de Moïse. Dans les versets 4 à 8, il nous est dit « Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois à la tente d'assignation, au mon bureau. » Dans mon bureau, vous trois, chez le proviseur. Et ils y allèrent tous les trois. Moïse, lui, il était plutôt content, il aime bien aller dans le bureau du Seigneur. Les deux autres, par contre, ils avaient les genoux qui commençaient à faire des castagnettes. Et regardez ce que Dieu dit. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, il se tint à l'entrée de la tente, il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, et là j'aime parce que il les met dans la multitude de tous les prophètes. Quand il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit là une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Il lui parle d'une manière claire, unique, d'une façon des plus distinctes, des plus familières, des plus constantes, des plus directes. Il ne parle pas aux autres prophètes de cette manière. Avec Moïse, il parle comme un homme parle à un homme. C'est-à-dire, je suppose que Moïse parlait à voix haute et que Dieu lui répondait de la même manière. J'imagine que ça vous arrive de parler à Dieu à voix haute. Mais il ne vous répond pas de la même manière. Mais là, Dieu répondait à Moïse de la même manière. Ça faisait que Dieu et Moïse étaient des intimes, plus qu'aucun autre. J'imagine que Moïse a dû un jour venir devant Dieu et lui dire, « Seigneur, tu sais, Séphora est décédé. Je suis seul. J'ai besoin d'une compagne à mes côtés. J'ai vu une très belle femme. Elle est éthiopienne. Qu'est-ce que t'en penses ?» Et Dieu a répondu. Dieu a approuvé le choix de Moïse. Aucun n'a joui de la liberté d'entrer et de sortir journellement dans la présence de Dieu comme Moïse, l'homme de confiance supérieur à tous les simples serviteurs. Un seul a connu une intimité plus grande, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors voyons la solution à la querelle, le dénouement, la résolution, verset 9, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. La colère de Dieu frappe Marie. La lèpre blanche éclate sur son front. » Faut-il y voir une certaine ironie chez Dieu dans son châtiment à l'égard de Marie, celle qui se pensait supérieure parce qu'elle était blanche, non pas comme la femme de Moïse, et maintenant encore plus blanche, mais parfaitement impure. Aaron semble épargné parce qu'il n'était probablement pas le leader de cette révolte, mais aussi à cause de son ministère de souverain sacrificateur, qui ne lui aurait plus été possible d'exercer. Mais quand il voit le jugement frapper sa sœur, il sait qu'il devrait subir la même peine. Et il s'adresse aussitôt à Moïse, comme à son médiateur. Et regardez comment il lui parle. Verset 11, « Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Pour Marie et Aaron, la solution à la querelle c'est de reconnaître son péché, son orgueil et de demander pardon. Proverbe 13, 10 dit « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Et ils sont obligés de venir devant Dieu et demander pardon pour leur orgueil, pour leur querelle. Ils viennent devant Moïse, ils demandent pardon. Et il dit « Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Qui portera cette peine ?» Si nous voulons être pardonnés de nos attaques, de nos querelles avec les autres, il nous faut réaliser comment Dieu les condamne. Il faut s'en repentir et trouver en Jésus-Christ celui qui porte notre peine, celui qui porte notre châtiment, celui qui porte notre condamnation. Regardez à Jésus-Christ crucifié et vous serez guéri de votre orgueil. Guéri de votre désir de votre jalousie ou de votre désir d'être plus grand. Pour Moïse, c'est-à-dire pour celui qui est offensé, la solution, regardez ce qu'il fait. Verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant « Ô Dieu, je te prie, guéris-la ». Remarquez bien qu'il ne s'est pas réjoui du châtiment de son frère et de sa sœur. Non, il est simplement bouleversé. Et il prie en faveur de ses accusateurs. C'est la seule chose que Moïse ait faite dans tout ce passage. La seule chose que Moïse ait faite, c'est qu'il a prié pour son frère et sa sœur. Et il prie, guéris-la. Évidemment, guéris-la de cette lèpre. Mais on peut bien sûr penser d'être guéri du mal plus profond qui a provoqué la colère de Dieu, de son orgueil, de sa rébellion, de sa jalousie. Est-ce que nous pourrions voir le besoin spirituel de celui qui nous attaque pour pouvoir prier pour lui? Dans ce cas-là, pour nous, il nous faut encore regarder à Jésus-Christ. Lui qui injuriait ne rendait point l'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Néanmoins, Marie devra passer 7 jours exclue du camp. C'est-à-dire qu'il y a une discipline, malgré tout, qui s'exerce envers elle. L'affront était public. La rébellion a entraîné le peuple, a entraîné son frère. Il fallait une correction publique. Et puis le second aspect, et c'est plus personnel, il faut que l'œuvre se fasse en profondeur dans le cœur de Marie. Il lui faut du temps pour mesurer l'ampleur de sa faute, sans d'en distinguer les racines les plus profondes et puis les extirper une à une. Et vous avez remarqué, elle est enfermée en dehors du camp. Le camp, c'est la liberté. Vous êtes enfermé dehors, privé de communion. Vous vous rendez compte de la chose? Son péché l'a privé de communion. Elle était considérée comme une lépreuse, comme quelqu'un qui allait contaminer le reste du peuple, avec lequel le peuple ne pouvait plus avoir de communion avec elle. Elle a besoin de réaliser tout cela, c'est un temps de réflexion, un temps de réflexion salutaire, de remise en question, c'est un temps nécessaire pour revenir dans une attitude de cœur humble et douce. Parfois, on passe très facilement sur nos fautes. Et on ne prend pas le temps de mesurer la gravité, l'ampleur, l'impact de nos fautes. Et puis vous avez remarqué que tout le temps que Marie est exclue, le peuple est paralysé dans sa marche. Marie, verset 15, fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. C'est-à-dire que le péché de Marie a des conséquences. Le peuple tout entier a subi un dommage durable. Et nos fautes ont bien souvent des conséquences sur l'ensemble du peuple de Dieu. Et c'est toute cette réflexion qu'il nous faut faire. Et puis c'est important aussi pour le peuple de chercher à guérir de cette propre attitude lui-même. Alors pour conclure, je trouvais un beau proverbe. Proverbe 20, verset 3, il est dit: c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. C'est une gloire. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir de querelles. C'est quelque chose qu'il nous faut rechercher par-dessus tout. On sait que nos cœurs sont comme celui d'Aaron et de Marie, capables des mêmes bassesses. On a besoin de se souvenir, c'est une gloire pour l'homme que de s'abstenir de querelles. Maintenant, c'est vrai qu'en s'engageant dans l'œuvre du Seigneur, vous serez critiqués. Et les critiques les plus douloureuses sont celles qui portent sur nos épouses, notre conjoint, sur un aspect de notre vie personnelle, de notre vie privée. On pourrait conclure qu'il vaut mieux ne pas se lever pour suivre Dieu afin d'éviter ce genre de difficultés. Mais ce serait une très mauvaise conclusion. Le chant de Gerna a expliqué ça merveilleusement. La victoire, tu l'auras. Oui, la victoire, tu l'auras. Alors courage. Dans le psaume 34, le verset 20, il est dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et quand Paul explique tout par quelle tribulation il a passé depuis qu'il est au service du Seigneur, et il dit: et le Seigneur m'a délivré de toutes. Voyez-vous, si vous vous rasseyez par crainte de la critique, par crainte des difficultés que pourrait provoquer votre engagement, alors vous allez manquer la délivrance. Vous allez manquer les rendez-vous extraordinaires avec Dieu. Vous allez manquer la provision et le secours de Dieu. Il ne faut surtout pas se rasseoir. Prenez courage. Moïse a continué. Il a continué à marcher à la tête du peuple. Et dans les chapitres qui suivent, rebelote, recontestation et redifficulté. Mais Moïse a continué et il a persévéré jusqu'au bout parce que Dieu est avec lui et parce que c'est Dieu qui le conduit. Et vous ne pouvez pas être heureux en dehors de ce plan merveilleux que de suivre le Seigneur, de l'aimer, de vous attacher tout entier à lui. Alors que Dieu vous vienne en aide si vous êtes sous les flèches de la critique. Notre Seigneur est un bouclier, il est un refuge pour ceux qui le cherchent. Alors que Dieu vous encourage à persévérer dans la foi, à vous appuyer sur lui jour après jour, comme Moïse l'a fait. Il va vous perfectionner en humilité, en douceur, en patience, et cela pour la gloire de son nom.